Bon, Pascal Cévé, faut pas que je me trompe parce qu'on est rendu à On en jase.
Oui.
Parce que ce matin, on était dans Marceau le matin.
Oui, puis on est ensemble encore, donc ça fait que ça peut être mêlant.
L'émission On en jase, votre émission du midi depuis le mois de septembre. On a un beau sondage, vous le savez, à Boulevard, on est très heureux. Merci d'être à l'écoute en si grand nombre de cette émission du midi qu'on adore faire. Aujourd'hui, il y a des petites modifications parce qu'Antonine Iaccarini est en vacances.
Absolument.
Fait que pour deux semaines, c'est-à-dire la semaine du 15 septembre et celle du 5 janvier, ce sera Victor Henriquez qui va être avec nous. On va avoir bien du plaisir avec lui à décortiquer l'actualité. Oh, dans l'actualité, Pascal, il y a le Mont-Sainte-Anne qui fait jaser pas à peu près. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont manqué, entrevue exclusive avec le ministre de la Capitale-Nationale. C'est sa première entrevue radiophonique depuis sa nomination au mois de septembre. Mm-hmm. Ça s'est fait ici sur les ondes de Boulevard ce matin à 8h30. Allez écouter ceci. On parle évidemment du Mont-Sainte-Anne. Et sur blvd.fm également, on a parlé avec un commerçant là-bas, Sylvain Laroche, copropriétaire de la microbrasserie des Monts. Lui, il dit « Fermez-moi ça pour l'hiver pour partir ça sur des bonnes bases. »
Malgré le commerce qui roule, il s'est dit « Regarde, on ferme tout, on passe l'année... » Mais on revient en grand.
Exactement.
Il était prêt à prendre ce risque financier-là, lui.
Oui. Également, Francine Tachereau, une détentrice de billets, justement, de saison depuis plusieurs années au Mont-Saint-Anne, qui disait la même chose. Remboursez-moi, je vais aller au massif, remettez cette montagne-là à jour, puis je reviendrai. J'ai un chalet, moi, c'est mon projet de retraite. J'ai un chalet au pied des pentes du Mont-Saint-Anne. Mais là, j'ai peur d'embarquer dans la télécabine. Donc, allez voir ça sur blvd.fm. Je vous rappelle de télécharger l'application au BLVD 102.1. C'est sur App Store, Google Play Store. Parce que Pascal, dans le temps des fêtes, on se promène un peu partout en province.
Oui.
Il y en a même qui vont se promener au Canada. Puis il y en a même qui vont dire « Ah, la chaleur des États-Unis ou du Mexique. » Et avec l'application, vous pouvez nous écouter où vous êtes. Et twitch.tv/BLVD/FM. Avant d'amorcer un caucus avec Victor Henriquez, Pascal, qu'est-ce qu'on doit suivre là, dans l'actualité, les 3-4 nouvelles importantes?
Bien, tu parlais en fait du Mont-Saint-Anne, disons-le. Là, c'est un dossier très chaud dans notre région. Le PQ aussi. Bon, on avait eu Pascal Paradis en entrevue la semaine passée là-dessus. Mais on continue sur la même ligne. Pour eux, on réclame et promet l'expulsion de RCR, l'entreprise qui gère la montagne. Il y a eu M. Simard, effectivement, en entrevue ce matin, qui dit « C'est un peu plus complexe que ça. On a tout sur la table en ce moment pour voir comment on va régler le dossier. » Mais assurément que de briser, de faire une rupture dans le contrat qui existe déjà demande beaucoup plus de jus de bras qu'on pense, de sommes aussi à investir. Alors pour eux, ils accusent le PQ d'être idéaliste. Le PQ accuse la CAQ de ne pas être très proactif dans le dossier, que ça aurait dû être réglé bien avant. Mm-hmm. Mais c'est un dossier chaud. Pour la venue de M. Simard aussi, on a appris que les temps sont durs pour Saint-Roch. Il veut faire un quartier universitaire, un quartier dynamique dans le secteur. Il y a des plans quand même assez concrets. On a parlé de troisième lien aussi. On veut pas de version TEMU. Ce sont ces paroles du troisième lien. On veut que ce soit bien fait en bonne et due forme avec le meilleur tracé possible. Alors voilà pourquoi ça semble prendre plus de temps au niveau de la CAQ pour nous présenter quelque chose.
Comme j'ai dit à M. Simard, je vais le voir quand je vais le croire.
Oui, absolument, absolument. Il y a aussi des nouvelles par rapport à la crise au libéral. Les jeunes du PLQ qui refusent d'appuyer Pablo Rodriguez, on en reparlera tantôt avec Victor Henriquez. Et dans l'actualité, je peux vous parler de quelque chose ici à Québec, en fait. C'est un communiqué qu'on a eu avant d'entrer en onde. Une année record pour le tourisme dans la ville. Donc, 300 millions de dollars additionnels en retombées.
Économique.
On dit que c'est mieux réparti cette année à travers l'année, ce qui a aidé un peu les commerçants à savoir comment s'en sortir à travers cette année qui est quand même complexe là, au niveau taxes, impôts et également inflation. Tout le monde en fait un petit peu... front commun là, de cette année un peu plus économiquement saignante-là. Par contre, on est chanceux, on a eu du tourisme en masse, autant un tourisme gastronomique qui a été un atout idéal, on dit, dans notre manche. Et ça, c'est sûr que ça va perdurer.
Tu voyages à Québec, Pascal, c'est vrai? Un tourisme gastronomique?
Ben, c'est sûr. Moi, je vous dis, là, je pourrais être actionnaire dans certains endroits ici.
Mais c'est ça, hein? C'est le fun.
J'ai pas d'enfant, hein, ça. J'investis dans un autre bonheur.
Let's go. Vas-y, garde-toi.
Sinon, on parle aussi de mobilisation exceptionnelle dans d'autres industries, comme quoi les dépenses touristiques sont inégalées cette année. Vraiment un record. C'est en constante montée aussi. C'est sûr qu'on va peut-être aller jouer dans les chiffres comme on peut pour faire rayonner la ville, mais chose certaine, c'est basé sur des faits. Actuellement, le communiqué qu'on a eu, il est très bien dépeint.
En effet. Donc, félicitations à la Ville de Québec. Félicitations à tous les gens qui sont dit « Hey, non, moi, je ne vais pas aux États-Unis », mais qui ont décidé de venir visiter la Ville de Québec. J'espère que vous y avez pris goût. J'espère que vous avez aimé votre expérience. Moi, je suis un gars de Québec et je tripe bien raide sur ma ville. Je tripe à la découvrir encore. Et justement, on parlait de Saint-Roch avec Cité universitaire. J'ai redécouvert Saint-Roch sous un autre angle samedi. Je suis allé au spectacle Aura à l'église Saint-Roch. C'est extraordinaire comme spectacle. La vie était bonne à Saint-Roch. Il y avait beaucoup de gens sur Saint-Joseph, beaucoup de gens dans les restaurants. Donc, n'hésitez pas à profiter de la période des fêtes là, pour découvrir les beaux côtés de Québec.
Une nouvelle importante aussi, c'est des massothérapeutes qui ont été radiés. Là. Tu sais, tu te demandes, bon, je peux aller me faire masser.
Ça, j'ai trouvé ça intéressant.
C'est super intéressant parce que, bon, ceux qui ont été radiés de leur association professionnelle, il y a une association professionnelle pour être massothérapeute, avec une faute grave, pourront plus se faufiler en adhérant à un autre regroupement pour continuer de pratiquer. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a un nouveau registre commun qui va amener toutes les radiations dans le même dossier, dans le même papier. Ça va être mis en place dès le 1er janvier prochain. On veut renforcer la protection du public puis préserver la réputation de la massothérapie pour pas que ça dérape, justement, comme plusieurs textos qu'on a reçus la semaine passée de gens inquiets aussi à ce niveau-là. On a eu beaucoup de ces nouvelles dans l'actualité au courant des 6 derniers mois, là, juste en comptabilisant vite comme ça. J'en avais 6 à 7.
Super idée, puis ça me fait penser, il faudra le faire pour les enseignants. Les enseignants d'un centre de service à l'autre, les dossiers ne suivent pas, ce qui fait qu'un enseignant qui peut avoir eu certaines plaintes de mauvais comportement va se retrouver dans un autre centre de service, dossier à zéro. Donc, il faudrait le faire également pour le corps enseignant. Il n'y a pas de doute dans mon esprit.
Peut-être terminer avec ce qui s'est passé du côté de l'Australie. Ça fait jaser à travers le monde, mais on va en parler effectivement avec Victor Henriquez dans un instant. Mais comme quoi, tout le monde a son petit mot à dire. C'est plus que australien ce qui s'est passé du côté de Sydney. C'est un attentat terroriste qui a ébranlé pas mal de pays, pas mal de présidents qui prennent la parole parce que cette sous-couche de terrorisme-là qui a peinturé les années 2000 refait surface finalement dans le monde moderne puis dans tout ce qui est actuel avec l'attentat en fait.
Et justement, on amorce le caucus avec Victor là-dessus.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Et non, ce n'est pas Antonine Iaccarini pour cette semaine et la semaine du 5 janvier. Ce sera Victor Henriquez. Victor, comment vas-tu, mon ami?
Ça va bien, Jeff, toi?
Ça va super bien. Merci beaucoup, Victor, d'être avec nous pour ces 2 semaines-là. Je suis certain qu'on va bénéficier grandement de ton expertise politique et d'actualité.
Et félicitations en fin de semaine pour ta prise de parole sur l'immigration aussi, Victor. Oui. On sait qu'on avait parlé avec toi de ça. Tu es issu de l'immigration. Tu t'es absolument bien, disons-le comme ça, implanté au Québec de façon extraordinaire. En plus de commenter la politique, ça donne quand même un beau pouce sur à quel point tu es rendu un fidèle québécois, mais aussi sur le fait que tu vas parler de la réalité puis à quel point ça change des vies puis que c'est essentiel de bien intégrer les gens qui arrivent ici.
Ben, merci de m'avoir invité. Puis oui, j'avais envie, moi, ça faisait 30 ans que je suis arrivé au Québec vendredi, je suis arrivé le 12 décembre 1995. Puis j'avais envie de dire merci parce que tout dépend des gens qui t'accueillent. Puis moi, il y a des gens qui m'ont appris à aimer le Québec, qui m'ont appris à le comprendre aussi parce que justement, si j'ai aujourd'hui le privilège de commenter avec vous l'actualité, puis les affaires politiques, parce qu'il y a du monde qui m'ont transmis ça. Alors, j'avais le goût de dire merci à tous ces gens-là, puis à travers ça, dire merci à tous ceux aussi qui font l'effort d'aller vers la différence, qui voient la différence comme une richesse. Alors, je pense qu'on est tous gagnants de voir la différence comme une richesse. Puis en même temps, moi, j'ai été accueilli par des gens extraordinaires. Puis ça, je pense que c'est important de le dire, de le rappeler, que le Québec est un peuple extraordinaire quand vient le temps d'accueillir. Des fois, on parle d'immigration, mais on a tendance à oublier ces éléments-là. Il ne faut jamais l'oublier parce que c'est un endroit extraordinaire pour arriver.
Oui, merci de nous faire découvrir cette touche d'humanisme derrière l'immigration parce que malheureusement, j'ai l'impression que dans la dernière année, on a parlé beaucoup d'immigration avec un chiffrier Excel alors que c'est des humains qui sont derrière ceci. Et puis, tu en es un bel exemple, Victor. Alors, merci beaucoup. Je pense que plus il va y avoir de gens comme toi qui vont prendre la parole, plus il va y avoir une ouverture d'esprit là, qui va se créer dans la communauté.
Merci à vous.
Ça fait plaisir.
Et en passant, en parlant d'actualité, il y en a beaucoup. Je vous écoutais parler des différents sujets, puis je me disais, J'ai l'impression que les vacances n'arriveront pas pour le monde politique au Québec.
Non, exactement. On va commencer en actualité avec l'attentat en Australie. Victor, si tu le veux bien. Parce que moi, l'Australie, j'ai toujours comparé ça au Canada dans le sens où c'est deux sociétés qui sont très calmes. C'est deux sociétés où, oui, il y a de la violence, mais pas à l'extrême. Et là, de voir cet attentat-là sur une plage antisémite en Australie, ça me fait craindre pour ma sécurité au Canada. Je suis dans le champ.
Non, t'es pas dans le champ, puis je peux te dire que justement, j'ai été chercher un peu d'informations, puis ce qu'on me dit, c'est que la sécurité dans la communauté juive, notamment à Montréal, a été renforcée de façon extrêmement importante depuis les événements de la fin de semaine, justement parce qu'on a un peu cette crainte, hein. C'est des tissus sociaux qui se ressemblent beaucoup entre le Québec et l'Australie. Même genre de composition, même genre de façon de vivre aussi. On est des pays qui sont assez semblables sur l'ouverture à l'autre, tout en ayant des restrictions des deux côtés. Donc, c'est ça qui est inquiétant, c'est quand on voit un attentat comme celui de Sydney, on peut se dire, crime, ça peut-tu arriver chez nous? Puis oui, il y a des gens qui ont mis assez d'inquiétude pour justement renforcer la sécurité. On m'a dit que devant les synagogues, il y avait plus de surveillance policière. Cette semaine, ils célèbrent la fête du Hanouka, justement. Donc, il y avait plus de surveillance aussi devant tous les centres communautaires, les garderies, ces endroits-là. Donc, clairement, il y a une volonté d'agir et de faire attention, mais malheureusement, c'est des choses qu'on évite jamais à 100% parce que ça fait partie de ces grands risques lorsqu'on ramène des conflits internationaux à l'interne. Puis c'est un peu ça qui arrive en ce moment aussi.
Puis on est-tu capable de faire une corrélation avec quoi que ce soit ou c'est vraiment le type d'attentat qu'on a connu sans avertissement, quelque chose qui se passe beaucoup plus sur le web, qui se passe plus dans une indignation puis peut-être une identité religieuse à ce niveau-là aussi parce que ça a toujours été là, ça a toujours été présent en sous-couche. On sait que beaucoup, beaucoup d'instances de sécurité dans plusieurs pays crime mettent de l'argent sans arrêt là-dedans. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un attentat terroriste. Ça nous manquait pas là, de ce type-là. Tellement que pays européens commentent la chose et en font place aussi dans leur prise de parole sur leur X de ce monde. Ça vient chambouler tout le monde parce que c'est un ennemi commun finalement, le terrorisme.
Tout à fait. C'est un attentat qui est super assumé. C'est un peu ça qui nous surprend dans tout ça. Hein, parce que on a un père et son fils qui décident d'attaquer une fête juive directement. Donc, c'est un attentat antisémite, très assumé, très direct, fait de façon très improvisée aussi. Là. C'est deux personnes, on semble pas avoir d'organisation hyper spécialisée autour. On a vraiment deux personnes qui ressentent un niveau de haine tellement grand qu'ils en vont jusqu'à tuer des gens sur une plage. Imaginez là, ce que ça représente dans des pays, dans un pays comme l'Australie, qui est un pays développé comme le nôtre, qui est un pays sécuritaire comme le nôtre. Alors, c'est ça qui frappe. C'est ça qui frappe tout le monde. C'est de dire, attendez, là, ça peut arriver vraiment n'importe où. Puis j'écoutais les gens, des Canadiens ou des Français qui étaient sur la plage à ce moment-là. Puis c'est un peu frappant, là, parce qu'on parle quand même d'une plage grand public. En ce moment, il fait, contrairement à chez nous, il fait très, très beau à Sydney. Hein, on est dans une époque estivale. Alors, tu te dis, attends une seconde, là, ça, c'est l'équivalent du bord de l'eau en plein mois de juillet.
Non, exactement. Donc, ça frappe beaucoup l'imaginaire. On sait que les services secrets ici au Canada se sont-ils débordés? Ça a fait l'actualité il y a de cela à peu près un mois ou deux. Donc, franchement, va falloir ajouter des ressources ici au Canada si on va essayer d'éviter ce genre de drame-là.
Il faut ajouter des ressources, puis faut avoir beaucoup de prévention. Puis c'est intéressant, je vous raconte une anecdote. Moi, j'ai un ami qui est membre de la communauté juive, il m'a raconté qu'il est allé à la synagogue ce matin, et que quand il est allé à la synagogue, il y avait un imam qui était là avec le rabbin pour prier ensemble. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que il y a justement ce débat entre musulmans puis juifs, et l'imam disait, attention, c'est pas des musulmans, c'est des islamistes. Et ça, là-dessus, c'est super important de faire la différence. Il y a des extrémistes religieux qui font des attentats. Et il y a aussi des gens qui vivent leur religion de la bonne façon. Donc moi, je trouve ça le fun que rapidement, dans une synagogue à Montréal, on ait mis en place ce dialogue. C'est ça qui nous aide. Hein. Le dialogue, c'est toujours une solution. La communication entre les différentes cultures, entre les différentes religions, c'est important parce que c'est pas tout le monde qui a mis la religion de côté de la même façon qu'on l'a fait au Québec. Alors, c'est important aussi de discuter de ces choses-là.
Avant de parler de Pablo Rodriguez, Victor, et de ces jeunes libéraux qui se sont positionnés à l'encontre de leur chef, je veux qu'on continue sur la scène internationale parce que Mark Carney doit nommer deux nouveaux ambassadeurs. Un à Paris, Stéphane Dion dit qu'il allait quitter en janvier 2026, et un à Washington. Et là, moi, il y a un nom que j'entends circuler, c'est Jean Charest, puis je me dis, crime, c'est pas fou parce qu'on va avoir de gros dossiers économiques à gérer autant avec l'Europe que les États-Unis, et Jean Charest est un très grand et fin négociateur.
C'est vrai que c'est un très grand négociateur, puis c'est drôle parce qu'il est en mission, je ne sais pas s'il l'est encore, mais il était en mission en fin de semaine avec son entreprise. Il est associé chez Terrien Couture, bureau d'avocat bien connu à Québec, et il était en mission justement à Paris. Alors, c'est intéressant parce que c'est deux places très névralgiques. Il semblerait que Mark Carney a fait son choix pour Washington. Ce serait Mike Wiseman qui est un proche de Mark Carney, qui faisait déjà partie du comité consultatif sur les relations canado-américaines et qui s'en irait à Washington justement pour amener cette nouvelle négociation de l'accord de libre-échange, hein, parce que c'est ça 2026. Avec Washington, on va rediscuter de l'accord de libre-échange. En passant, on va en rediscuter à chaque année en 2026, 27, 28 et 29. Il faut savoir que l'accord de libre-échange, c'est un élément super important pour les gens qui nous écoutent. Il est négocié pour dans 10 ans. Donc, même si on renégocie l'accord l'an prochain, c'est pas pour tout de suite. L'accord, il est fait de façon à ce que les entreprises aient de la prévisibilité, qu'on appelle. Donc, on négocie en 2026.
Ce qui est pas mauvais,
Victor. Appliquer en 2036. Là, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que les gens sont très inquiets. Puis, je pense aux gens, par exemple, les chefs d'entreprise qui nous écoutent en ce moment, qui ont des décisions à prendre sur le court terme. C'est important qu'on sache que même si ça change, ça va changer pour dans 10 ans. Et c'est important aussi que dans 10 ans, on se rappelle que Donald Trump ne sera plus là. Donc oui, on négocie avec lui cette fois-ci, mais on va renégocier avec les prochains présidents après. Alors, ça va être important d'amener quelqu'un qui, justement, a cette compréhension fine de la négo à Washington. J'aime le nom que tu circules pour Paris. Moi, il y a des gens qui m'ont dit que Jean Charest n'est pas convaincu que lui-même a le goût d'aller comme ambassadeur. Faut vouloir le faire. Je pense qu'il est dans une très belle position actuellement parce que, justement, il y a une belle crédibilité au niveau international comme négociateur. On a entendu aussi, Jeff, le nom de Mélanie Joly. Il y a eu une rumeur la semaine dernière dans le Toronto Star, comme quoi Mélanie Joly pourrait être intéressée par Ottawa. C'est drôle parce qu'au début, on m'avait dit que c'était une grosse bulle, que c'était une patente à gosse, que ce n'était pas vrai. Et la semaine dernière, on m'a ramené ce nom-là dans des rumeurs. Donc là, il y a beaucoup de rumeurs en politique, hein, vous le savez. Alors, il faut faire attention à ce qui se dit. Mais moi, j'ai toujours dit, il n'y a jamais de fumée sans feu en politique. Donc, si le nom de Mélanie Joly circule, soit il y a quelqu'un qui aimerait bien la mettre là, c'est pas sûr qu'elle veuille. Soit il y a quelqu'un qui pense que c'est une bonne idée, peut-être qu'ils sont en discussion. Donc, ce sera à suivre, mais c'est une grosse nomination. Paris puis Washington, c'est les deux grands axes de ce que Mark Carney veut faire avec nos partenaires. Hein. Rappelons-nous, il est allé en France, à Londres, à Washington. C'est les trois grands axes. Donc, Paris et Washington nommés en même temps. Imaginez ce que ça représente comme message à l'international.
Est-ce que ça pourrait être encore plus important, Paris, que ça ne l'a jamais été? Je m'explique avec les tarifs de Donald Trump, avec le fait qu'on veut exporter peut-être ailleurs un peu plus, avoir de meilleures liaisons commerciales, pas toutes dans le même panier. Paris, pourrais-tu prendre plus de place?
Paris prend énormément de place, tu as bien raison, Pascal, parce qu'avec le Brexit, Londres est peut-être moins un peu centralisée sur l'Europe, justement. Bon, l'Angleterre est un gros partenaire, mais pour ce qui est de la relation avec la communauté européenne, Paris et Bruxelles sont les deux éléments les plus importants, avec Berlin, je te dirais, dans le top 3. Donc oui, Paris va prendre beaucoup d'importance. C'est aussi le fait que la politique en France est beaucoup en train de bouger, va bouger énormément dans les prochaines années. La prochaine élection présidentielle, on risque de retrouver une bataille avec les deux extrêmes, hein, du côté de l'extrême gauche et Jean-Luc Mélenchon, puis du côté de l'extrême droite avec peut-être Jordan Bardella qui sera le candidat présidentiel, c'est à confirmer. Donc il y a beaucoup de changements en Europe qui s'en viennent, ça va prendre quelqu'un justement qui a cette capacité de s'intégrer aux différents mouvements. Un ambassadeur, il faut le rappeler, il n'est pas là pour faire de la politique dans les pays où est-ce qu'il s'installe. Il est là pour adapter le discours canadien à ce que la population choisit là-bas. Donc, un ambassadeur à Paris va devoir être très caméléon à discuter avec tous les niveaux politiques, les différents partis dans des mouvements où ça bouge et être capable de parler de libre-échange avec l'Europe parce que on a besoin de diversifier nos marchés pour nos entreprises d'ici.
Victor, tant qu'à ça, je vais saisir la balle au bon parce que tu as parlé d'extrême-gauche, extrême-droite. Ça va être un combat en France. Pas soit de faire le saut au Chili avant de parler de Pablo Rodriguez parce que c'était exactement le combat qu'on avait. Les Chiliens ont décidé d'y aller à droite avec quelqu'un qui campe des politiques d'immigration qui ressemblent beaucoup à celles de Donald Trump. Comment tu vois le Chili si on se parle, exemple, l'an prochain?
C'est intéressant parce que c'est une grosse mouvance vers la droite et vers la droite anti-immigration. Appelons-la comme ça, là, c'est une droite. Il faut savoir qu'au Chili, il y a eu plus de 500 000 immigrants vénézuéliens qui sont rentrés. Ils disent qu'ils ont plus de 350 000 illégaux dans un pays qui a des niveaux de pauvreté assez importants et la criminalité a explosé dans ce pays-là. Et hier, on a vu un résultat très clair hein, où l'extrême droite a gagné avec près de 60 % du vote. C'est énorme pour un pays qui a déjà vécu une dictature. C'est le premier président de droite assumé depuis la fin de la dictature. Mm-hmm. Alors ça va envoyer un message parce qu'il y a déjà le président de l'Argentine qui est très à droite, très libertarien. Là, on a M. Kast qui est aussi très libertarien. Le Pérou et la Bolivie sont en train de bouger aussi. Et ce que ça nous rappelle, c'est qu'il n'y a pas juste Donald Trump là, qui est anti-immigration et qui a des mouvements très à droite. C'est partout dans le monde, ce mouvement-là. On a vraiment une situation parce que les mouvements de masse de population sont en train de faire que les gens disent « Attends une seconde, là, c'est trop vite, c'est pas contrôlé, ça crée des enjeux d'insécurité. »
Ben, c'est exactement les enjeux qu'on, c'est exactement les enjeux qu'on a au Québec, Victor. Quand je parlais que je trouve qu'on le gère trop en chiffrier Excel, mais n'empêche que c'est quand même un enjeu qu'on a avec nos écoles, avec nos garderies, avec nos hôpitaux, avec nos services sociaux.
Oui, puis c'est là où est-ce qu'on a une différence majeure qu'il faut absolument qu'on protège. Parce que un des éléments qui frappe l'immigration dans ces pays-là, c'est que c'est une immigration non sélectionnée, non désirée et qui rentre par flux de masse avec des gens qui rentrent littéralement en marchant. On parle de gens qui rentrent à pied ou en autobus ou en auto dans des frontières terrestres. Au Québec et au Canada, on a majoritairement toujours eu une immigration qui arrive choisie. On va à l'extérieur, on choisit ces gens-là. Même dans les camps de réfugiés, on choisit des gens. Donc, ça a toujours été notre force au Canada de le faire comme ça. Et là, dans les dernières années, on a eu des vagues de demandeurs d'asile, puis on a eu des travailleurs étrangers temporaires. Faites attention à ne pas mettre tout le monde dans le même panier, mais dans les demandeurs d'asile, c'est clair qu'il y a des mouvements qui sont préoccupants. Maintenant, on doit faire confiance à nos institutions puis à nos lois. C'est très différent la situation aux États-Unis puis en Amérique du Sud de ce qu'elle est ici. Maintenant, les arguments sont les mêmes. Alors, la question à se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber dans les extrêmes, mais s'assurer qu'on se protège et qu'on fait les choses comme il faut. Et il y a une question qu'il faut qu'on se pose aussi, c'est sur la question de la langue. On met beaucoup, beaucoup, beaucoup de priorité sur la langue française. C'est essentiel. Mais est-ce que c'est le seul critère d'intégration? Mm-hmm. Ça aussi, c'est des éléments qu'on doit réfléchir. Alors, la discussion sur l'immigration, c'est une discussion hyper importante. Mais je pense que c'est important de voir, Donald Trump, c'est pas juste aux États-Unis. C'est un mouvement mondial. Ce qui fait qu'il ne faut pas le sous-estimer. Il ne faut pas penser non plus que c'est tout des fous. C'est un mouvement qui va venir au Québec sous une forme ou sous une autre. C'est des conversations qu'on va avoir. Est-ce qu'on sera capable de les faire mieux que les autres? C'est là qu'on sera testé.
Oui, puis c'est intéressant de t'entendre, Victor, là-dessus. On pourrait faire, je pense, un caucus Enriquez complet sur cette tendance-là. Parce que, tu sais, qui sommes-nous, nous, pour penser que nos mœurs, notre éthique est mm-hmm. meilleure que celle des autres? T'sais, tu ne te battras jamais contre quelqu'un qui, sa tête est programmée, comme la nôtre est programmée, dans Clairement. Nos valeurs occidentales. Après, c'est de décider comment est-ce qu'on, nous, on veut créer
on
notre pays.
On vit tous avec nos biais.
Mais c'est vrai qu'il y a une tendance actuelle, puis il ne va pas falloir prendre ça d'affront en disant qu'il faut se battre parce qu'on va se créer des ennemis pas à peu près politiques, Victor.
Tu sais, oui, puis je pense que c'est important de s'assumer là-dedans puis d'assumer les bons discours. Hein. De dire « j'ai peur de », c'est pas quelque chose de négatif, c'est juste d'assumer les sentiments qu'on a. Par exemple, il y a une chose, les gouvernements ne doivent pas légiférer sur la base des émotions, ils doivent légiférer sur la base des faits. Et ça, c'est super important de faire attention à ça. Mais moi, ce qui me dérange, c'est pas quand les gens expriment leur peur, c'est quand les gouvernements essayent de gérer les émotions du public. Moi, que quelqu'un ait peur, c'est pas le rôle du gouvernement de venir légiférer là-dessus. Puis c'est pour ça qu'il faut trouver une bonne équilibre pour avoir la conversation au bon niveau. Mais il y a plein de discussions qui s'en viennent sur les mouvements migratoires. Puis, tu sais, on a parlé de beaucoup de climat dans les dernières années. Là, on en parle un peu moins. Mais ça aussi, c'est un élément. Il y a des gens en ce moment qui bougent de leur pays parce qu'il y fait trop chaud, parce qu'il y a des événements extrêmes qui arrivent. Il y a plein de raisons de bouger. C'est plus seulement parce qu'on n'est pas bien chez nous, parce que c'est pauvre ou parce que politiquement, ça ne va pas bien. Donc ça, il va falloir vraiment discuter de ça. Puis tu sais, il y a l'autre élément, puis ça, c'est une grosse conversation, on pourrait faire des heures et des heures là-dessus, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait pour que ces pays-là soient de meilleurs endroits où vivre pour les gens qui veulent y rester. Parce qu'il faut toujours se rappeler d'une chose, puis l'Afrique est un super bon exemple. Combien d'entreprises occidentales sont allées exploiter les ressources de l'Afrique sans laisser une scène pour les gens là-bas? Et après ça, on se dit, hey, on écoute Donald Trump qui dit « La Somalie, c'est un pays, excusez-moi l'expression, de merde. Ben, je m'excuse, mais qu'est-ce que vous êtes allé faire en Somalie? On leur a-tu laissé des ressources pour ce qu'ils s'enrichissent puis qu'ils vivent bien chez eux? Ça, c'est une grosse, grosse question à se poser parce que c'est le résultat de tout ça au bout de la ligne.
Puis on a laissé coup d'État par-dessus coup d'État se faire là-bas.
On les a financés, tu sais.
Oui, exactement. Victor, les déboires de Pablo Rodriguez se poursuivent. Aujourd'hui, c'est la commission des jeunes libéraux qui dit non, on n'en veut plus de Pablo Rodriguez. C'est le VPO communication de Noah Faour Charpentier qui a pris la parole. Et il a dit c'est dans l'intérêt du parti de se séparer de Pablo Rodriguez. Là, Victor, comment il va faire pour rester, Pablo?
Eh hey boy, c'est une grosse question. Puis, tu sais, le problème avec les noms en aise, c'est qu'on les confond souvent. Hein. Moi, je me suis souvent fait appeler Victor Rodriguez. Là, de ce temps-ci, je veux pas qu'on fasse l'erreur parce que le nom Rodriguez, c'est un peu toxique. en toute gentillesse avec Pablo, mais c'est une situation extrêmement complexe qu'il vit. Puis, j'écrivais un texte là-dessus ce matin sur Nouveau Info parce que ce qui est compliqué, là, c'est que il gère une crise sans savoir c'est quoi le fond de la crise. Il faut quand même se le rappeler, là, Marwan Riski n'a pas voulu dire à son chef c'était quoi la raison pour laquelle elle a mis dehors la chef du cabinet. Puis ça part de ça. Elle n'en a parlé à personne, pas au président, pas à ses collègues, pas au chef, pas à personne. Elle a parlé à l'UPAC, par exemple. Et là, c'est comme une espèce de supplice de la goutte que Pablo Rodriguez subit depuis un mois. Là, maintenant, le parti a des instances. Et dans ces instances-là, pour les gens qui nous écoutent, la commission de jeunesse, c'est un tiers du vote d'un congrès du Parti libéral du Québec. Robert Bourassa avait donné beaucoup de force aux jeunes en disant un parti politique, il faut que ce soit d'abord basé sur ce que les jeunes veulent pour l'avenir.
Ce qui est une bonne idée.
Une super bonne idée. Ça se retrouve aussi que dans une instance comme le Parti libéral du Québec, quand la commission jeunesse dit on n'est pas prêt nécessairement à donner carte blanche au chef puis à l'appuyer à ce moment-ci, c'est très gros. Et là, Pablo Rodriguez n'a pas beaucoup de temps devant lui. Là, le temps des fêtes arrive, là. Honnêtement, pour qu'il reprenne le contrôle du narratif, il va falloir qu'il fasse des gestes très forts pour montrer qu'il a une compréhension de ce qui se passe au PLQ. Il peut peut-être gagner du temps, mais moi, pour moi, le rapport du juge indépendant, le juge indépendant qui a été nommé pour faire une enquête indépendante, va remettre un rapport à la fin du mois de janvier. Si ce rapport-là ne blanchit pas par Pablo Rodriguez, c'est fini. Et encore là, je ne suis pas sûr qu'il se rende là.
Oui, ça, c'est la grande question, en fait. Est-ce qu'il va se rendre là? Est-ce qu'il doit rendre ses armes politiques? Ouais. Là? On dirait qu'il est cuit. Là. Il n'y a pas grand-chose qui lui permet de continuer, on dirait, de notre œil à nous et des textos qu'on reçoit au 88-971-102 parce que les auditeurs peuvent toujours réagir à ça. Tu nous es arrivé avec quelque chose de super intéressant aussi dans le plan aujourd'hui. Le projet de logement aux Galeries de la Capitale, ça t'a intéressé. Écoute, nous, du côté de Fleur-de-Lys, on voit le même genre de transformation. Ce sont deux centres commerciaux très connus dans la capitale nationale. Tu as une remarque politique ou économique là-dessus?
Une remarque politique parce que c'est un élément que je trouve super intéressant. Puis, tu sais, je connais un peu la région de Québec hein, parce que je la visite très souvent. Moi aussi, je contribue au tourisme à Québec régulièrement.
Merci.
Et tu sais, je pensais aux Galeries de la Capitale, c'est une espèce de modèle de centre commercial mm-hmm. avec beaucoup de stationnement, très gros centre commercial. On y passe la journée. Puis, j'ai vu ça à Fleur-de-Lys. Je vois aussi ça à Pointe-Claire, ici à Montréal. Ce qu'on se rend compte, c'est que le modèle, il ne marche plus. Et ça nous amène au discours sur la densité. Et ça, c'est un discours qu'on va entendre de plus en plus au municipal. J'ai bien hâte de voir comment les résidents de ces quartiers-là vont réagir. Parce qu'on va vouloir construire beaucoup en hauteur à des endroits où est-ce qu'il y a beaucoup de transports en commun.
Ah oui, ici à Québec, Victor, on l'entend beaucoup. Il y a d'ailleurs un projet, l'îlot Dorchester en plein Saint-Roch, un édifice de 17 étages. C'était prévu 20 étages. Les citoyens ont déchiré leur chemise. Bref, ça a été un branle-bas de combat pendant 2 ans avec le maire tranche. Je tranche la densité de 17 étages.
Ça, c'est super intéressant parce que le politique va avoir la responsabilité, justement, d'expliquer aux citoyens pourquoi c'est bon de la densité, puis pourquoi on fait de la densité à ces endroits-là. Puis ça, on oublie à quel point, au Québec, on a des bâtiments qui sont bas. Tu sais, du duplex, du triplex, là, c'est pas beaucoup de hauteur quand tu as du transport en commun autour. Mais l'élément, c'est le transport en commun. Parce que si tu construis du 17 étages, mais que tout le monde a 2 chars dans cet appartement-là, ça va être le bordel sans fin. Donc, quand tu construis de la densité, il faut que tu t'assures que les gens utilisent d'autres moyens de transport. Et ça, je ne le vois pas encore assez dans les projets. Alors, on va devoir avoir cette grande conversation. Tu densifies, il faut que tu augmentes le transport. Ça, c'est autant à Québec que c'est à Montréal. S'il y a un tramway à Québec, parce qu'encore là, je suis obligé de dire si. Moi, tant que les projets ne sont pas sortis, je suis comme toi, Jeff, tant que je ne l'ai pas vu, je ne le crois pas.
C'est ça.
Et s'il y a un tramway à Québec, autour du tramway, va falloir que tu en mettes du monde. Parce que si tout le monde prend son char pour se rendre au tramway, ça ne marche pas, ces modèles-là. Alors, le politique va devoir nous donner plus d'explications. Puis, je trouve qu'on n'est pas assez bon en ce moment pour nous expliquer ce qu'on veut faire avec nos villes. Il y a des nouveaux élus municipaux. Je leur fais confiance. Mais faites de l'éducation. Faites de la promotion de c'est quoi la densité, sinon les voisins vont toujours s'opposer à ces projets-là.
Mais j'aime ce que tu amènes parce que, vois-tu, si on prend par exemple le projet à Fleur-de-Lys, il y a un axe métrobus à proximité, donc il y a du transport en commun fréquent. Les Trudel veulent développer Galerie Charlebourg, même principe, et il y a le métrobus, il va y avoir le tramway qui va passer là. Et l'autre Dorchester va être à proximité du tramway. Mais dans le cas des Galeries de la Capitale, c'est la phase 3 du projet Tramcité qui passe dans le Bourgneuf. Va falloir accélérer le tout, Pascal, si on commence à densifier comme ça partout en ville. Je me trompe-tu?
Ben accélérer le tout, mais à quel coût aussi?
Ouais, il y a ça, hein? Notre gouvernement est un peu dans le trouble financièrement, Victor.
Oui, puis pas juste le gouvernement. Tu sais, les investissements privés au Québec, ça monte pas, là. Mm-hmm. Alors là, puis encore là, des grandes discussions de société qui s'en viennent. Est-ce qu'on a assez de monde pour densifier de même? Est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on a une crise du logement, mais la crise du logement est où? Elle est dans le logement abordable.
En effet.
Pas dans tous les types de logements. Alors ça aussi, il faut faire attention parce qu'on va construire beaucoup de projets. Mais si les projets ne sont pas abordables, on va construire des tours avec des logements vides. Là.
J'adore ta vision, Victor Henriquez. Victor Henriquez, que vous aurez le bonheur d'entendre du lundi au jeudi à l'émission On en jase pour cette semaine et la semaine 5 janvier. Victor, on refait ça demain. J'ai adoré notre discussion.
C'était très cool. Merci beaucoup, puis on se revoit demain.
Yes! Salut, Victor.
Merci.
À demain.
Ciao.
Victor Henriquez. Pascal, merci de nous avoir trouvé Victor.
Non, mais c'est Victor qui m'a trouvé dans ses commentaires. Je trouvais ça le fun.
Ben oui.
C'est quelqu'un avec qui on peut avoir une pluralité de sujets.
Vraiment.
Mais surtout, sur qui on peut compter pour rebondir sur comme des technicalités qui ne sont pas abordées habituellement en commentaires politiques.
Mm-hmm. Ouais.
On peut aller gruger loin, puis même si on est dans la spontanéité du moment.
Moi, il est venu chercher ma petite fibre quand il a parlé du Parti libéral avec la commission jeunesse, 33% du vote. Souviens-toi, quand on parlait de la campagne électorale municipale, j'ai fait arrêter de penser que nous autres, on vivait avec deux chars dans la cour et tout le kit. Les jeunes voient ça différemment.
Tout autrement.
Ouais,
c'est
tout
capoté
autrement.
Comment ils n'ont pas la même façon de vivre.
Pas
là.
Du tout.
Juste les cours de conduite, là, je veux dire, c'est même plus une priorité. Nous, on attendait, on faisait des X sur le calendrier. Le moment où on allait pouvoir avoir notre permis ou commencer nos cours, c'était exceptionnel.
Exactement. Et là, eux se transportent différemment, aiment marcher, aiment profiter de la ville en plein air, aiment prendre le transport en commun. Faut penser différemment, guys. Faut penser pour notre nouvelle génération. Puis ça, je sais que des fois, quand je dis ça, le monde font comme « Hey, tu sors de où, Jeff Fortin? » Mais c'est ça quand même. Parlez aux jeunes, vous allez vous rendre compte qu'ils pensent différemment de moi qui ai 46 ans puis de mon style de vie. On fait une courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 101. Par la suite, je vais vous revenir avec quelques nouvelles sportives et on aura Pierre Lefrançois, qui est le préfet de la MRC Côte-de-Beaupré. Donc, on va revenir évidemment sur le Mont-Sainte-Anne. Jean-François Simard, je vais vous faire écouter l'extrait sur nos zones qui a mentionné. Tout est remis en cause. Ça se pourrait bien qu'on dise à RCR, ciao, bye, on va reprendre la gestion du Mont-Saint-Anne.
Ça, c'est-tu parce qu'ils ont réussi à trouver la bonne porte, soit celle sur la sécurité, avec les constats, avec les rapports qui ont été faits? C'est-tu comme ça qu'ils vont réussir à remettre la main sur le Mont-Saint-Anne, peut-être?
Ouais.
Mais on dirait, hein?
Non,
ça a été leur clé.
Oui, oui, oui. On dirait que là, la sécurité va faire en sorte qu'on va peut-être casser ce contrat-là de 99 ans.
Tellement de gens inquiets aussi pour RCR en ce qui concerne du Stonam.
Oui, c'est vrai, ça transparaît énormément dans les textos. Oui, t'as raison. Puis, avec raison. Parce que c'est la même compagnie qui gère Stoneham. Fait qu'on se dit, est-ce que le Mont-Saint-Anne est la phase 1 puis Stoneham va être la phase 2? Je comprends très bien les gens d'être inquiets. On revient en jase sur Boulevard 101 dans quelques instants.